Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 14 octobre 2022. Nous allons tout de suite vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran ripostera à quiconque chercherait à nuire à sa sécurité nationale. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Sommaire de ce journal, déclaration ce matin du leader de la révolution islamique d'Iran. Rejeté, le monde unipolaire perd sa légitimité d'heure en heure, a-t-il dit. La SICA est un mécanisme important pour la convergence, la coopération et la sécurité de l'Asie, a déclaré le président Raïsi de son retour d'Astana. Et puis, si les États-Unis sont sérieux dans la lutte antiterroriste, ils ne devraient pas aider le groupe terroriste Komala, déclaration de la mission iranienne à l'ONU. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le guide suprême de la révolution islamique d'Iran affirme que le monde unipolaire est rejeté aujourd'hui et qu'il perd sa légitimité d'heure en heure. L'ayatollah Sayyid Ali Khamenei a qualifié l'ingérence américaine en Irak et en Syrie d'exemple d'un système international unipolaire défaillant et en déclin. Pour le leader, les gens du monde entier sont aujourd'hui réveillés, ajoutant qu'ils rejettent l'idée fausse qu'un ou deux pays peuvent intimider d'autres nations. Le très haut dirigeant a souligné le rôle des nations musulmanes dans la formation du monde aujourd'hui, avant de préciser « Le monde musulman peut revendiquer la place qui lui revient dans la géopolitique mondiale par l'unité et en surmontant les machinations de ses ennemis. » L'ayatollah Khamenei a déclaré qu'aujourd'hui, la notion de l'unité inter-islamique équivaut à protéger les intérêts de la nation musulmane ainsi qu'à adopter une approche unanime pour contrecarrer les complots des puissances arrogantes. Dans une autre partie de ses déclarations, le leader se penche sur les récents troubles en Iran massivement alimentés depuis l'étranger, insistant sur le fait que les semis de la République islamique, selon ses mots, s'est transformé en arbre aujourd'hui. Le leader de la révolution a fait remarquer « Nous nous sommes dressés contre les grandes puissances. Un jour, ce monde était entre les mains de deux grandes puissances » à savoir les États-Unis et l'ex-Union soviétique. Les deux puissances, qui différaient sur des dizaines de questions, étaient pourtant d'accord sur une question, à savoir l'opposition à la République islamique. Ils pensaient à l'époque pouvoir déraciner le jeune arbre de la révolution islamique, mais aujourd'hui, cette pousse est devenue un arbre solide. Ils ont tort de penser que n'importe qui pourra y porter atteinte. Malgré toutes ces machinations, nous ne nous sommes pas arrêtés et nous avons foncé, a-t-il conclu. L'ayatollah Khamenei s'exprimait lors d'une audience accordée à un groupe de hauts responsables iraniens ainsi qu'aux deux participants à la conférence de l'unité islamique qui s'est tenue la veille à Téhéran. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la sécurité de l'Asie devait être protégée par les pays de cette région. Le président a décrit la priorité du développement des relations avec les voisins et du renforcement de la coopération avec les organisations régionales et extra-régionales comme le message de la présence de la délégation iranienne au sommet de la SICA au Kazakhstan et a ajouté « Dans ce sommet, nous avons souligné que la sécurité de la région doit être endogène et que l'intervention de puissances extérieures n'est jamais une solution au défi, mais s'ajoute au problème. » Le président iranien a fait ses commentaires à Téhéran à son retour du Kazakhstan. Là, il a assisté au 6e sommet de la conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie, connue sous le nom de la SICA. Dans son allocution au sommet, le président Raisi a déclaré que les États qui pillent les richesses des nations indépendantes au nom de la guerre contre le terrorisme ne peuvent jamais être un partenaire digne de confiance. Le président iranien a exhorté les pays asiatiques à travailler en étroite collaboration pour déjouer les complots des superpuissances et assurer la stabilité dans leur région. Téhéran réagit à la grève du secteur de l'énergie en France. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a décrit les actions de la France face à la grève des travailleurs du secteur de l'énergie comme un double standard. Les blocages dans les raffineries françaises se poursuivent. Le mouvement de grève a été reconduit ce jeudi et aujourd'hui, 14 octobre, Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a souligné vendredi la nécessité de faire la lumière sur ce qui se passe en France, sur des grèves du travail dans le secteur pétrolier et gazier et la menace des autorités françaises de recourir à l'usage de la force pour mettre fin aux grèves. Le Canada a imposé davantage de sanctions contre l'Iran pour ce qu'il appelle des violations des droits de la personne en Iran. Les nouvelles sanctions visent 3 entités iraniennes et 17 individus, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Les mesures interdisent, entre autres, les relations étrangères officielles avec les personnes et entités sanctionnées. La semaine dernière, le Canada a également imposé des sanctions à un certain nombre d'autres individus et entités iraniens, dont la chaîne anglophone internationale Presse TV. Pour son action, Ottawa a avancé comme prétexte des violations présumées des droits de l'homme lors des récentes manifestations en Iran. Ces manifestations ont éclaté après la mort le 16 septembre d'une jeune femme, Mahsa Amini, mais se sont rapidement transformées en émeutes. L'Iran a réagi aux précédentes restrictions imposées par le Canada en faisant référence aux crimes perpétrés par ce pays suivi des États-Unis contre les peuples autochtones, affirmant qu'Ottawa, avec un tel antécédent sombre et inhumain, n'était pas digne de mettre en cause d'autres pays sur les droits de l'homme. Téhéran faisait référence à la découverte des charniers d'enfants autochtones qui rappellent au Canada colonialiste un sombre passé. Ce n'est pas la première fois que le Canada, trop suivi des États-Unis dans sa politique étrangère envers l'Iran, propose de telles mesures contre l'Iran, avec lequel il n'entretient aucune relation diplomatique. Ottawa, dans le passé, avait mis sur la liste noire environ 200 entités et individus iraniens. Enfin, le représentant de la République islamique d'Iran aux Nations Unies a déclaré en réaction à un article controversé publié par un média américain, Dixit, « Si le gouvernement américain est sérieux dans la lutte contre le terrorisme, il ne devrait pas aider des groupes comme Komala ». Le représentant de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU, en réponse aux informations de l'hebdomadaire américain Newsweek concernant la demande d'aide et du soutien du groupe terroriste Komala aux États-Unis, a souligné « Komala est l'un des groupes terroristes actifs qui a tué des centaines de personnes à Mahabad, à l'ouest de l'Iran et dans d'autres villes du pays ». Le représentant de l'Iran à l'ONU a ajouté « Si le gouvernement américain est sérieux et véridique dans sa lutte contre le terrorisme, il ne devrait fournir aucune installation ni soutien à ces groupes, ni les recevoir. dans un discours virtuel dans l'Institut de Washington pour les études du Proche-Orient, l'un des think tanks proches du lobby israélien aux États-Unis, l'homme confirme la présence active de ce groupe terroriste dans la région nord de l'Irak et se dit préoccupé par les pressions pour mettre fin à leur présence dans la région. Il demande à cet effet le soutien américain. Auparavant, le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, dans une lettre au président du Conseil de sécurité, avait annoncé et souligné les raisons et les motivations de l'action militaire contre les groupes terroristes. La diplomatie n'a pas mis fin à la présence de terroristes dans le nord de l'Irak. L'Iran a dû faire recours à la force et à une intervention militaire. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'Iran ripostera à quiconque chercherait à nuire à sa sécurité nationale. Alors même que les États-Unis veulent faire payer à la France privée cruellement du gaz russe, chaque baril de pétrole quatre fois le prix du marché, quitte à provoquer au sein de la société française des scènes de guerre civile, genre ce qui suit, une société française déjà largement tendue par les soubresauts d'une guerre anti-russe, dont Paris elle ne voulait et qu'elle met, faute de mieux, à profit pour booster la vente de ses Césars, au risque d'en perdre le marché maintenant que ses premiers automoteurs se sont fait ratatiner dans la banlieue de Kiev. Les sources proches du Conseil de la sécurité nationale iranienne parlent d'une malheureuse hyperactivisme de la Direction générale de la sécurité extérieure française, DGSE, qui, de concert avec l'entité sioniste d'une part et ses pions de l'OMK de l'autre, chercherait à faire un remake du scénario de 2011 de la Syrie, en Iran. Selon Nour News, site proche des sources sécuritaires en Iran, l'arrestation de 5 Français, dont 2 agents de la DGSE, dans les rangs des fauteurs de troubles de ces dernières semaines en Iran, troubles qui, rappelons-le, ont fait 41 morts dans les rangs des policiers, ce qui en dit long sur les vrais desseins de leurs planificateurs, n'ont provoqué non seulement des remords côté français, mais encore des tentatives de rattrapage complètement folles. Ainsi, la DGSE aurait prémédité des kidnappings visant des ex-autorités politiques ou militaires, voire judiciaires iraniennes, qu'elle projetait de convier dans un pays européen tiers avant de procéder à leur arrestation arbitraire et à tenter un échange avec les 2 agents français retenus en Iran. Si ce scénario particulièrement grotesque pourrait à la limite être perçu comme l'œuvre d'un appareil de renseignement prêt à tout pour récupérer ses pions, il en est tout autre de cet autre scénario de la DGSE visant directement la sécurité nationale iranienne. Un peu à l'image de la France de Sarkozy-Hollande de 2011 à 2016, qui a porté une contribution bien effective à ce que la Syrie soit d'abord le théâtre des émeutes factices, puis la cible de grandes guerres, Paris chercherait à fabriquer une figure de proue propre à mener une ASL, la version iranienne. Soit un amas de milices terroristes prêts à mettre à feu et à sang les villes iraniennes. Reconnaissons que de ce côté-là, que la France atlantiste est plutôt gâtée, elle qui abrite depuis 4 décennies les terroristes armés sectaires de l'OMK, retranchés dans une garnison à la Villepinte. Et qui est la personne sur qui serait tombé le dévolu de la France, qui, trop oublieuse de ses intérêts suprêmes, largement malmenés par la crise énergétique ambiante, marche sur les pas de l'ex-US Israël, prêt à se placer en ligne de mire de l'Iran. Un certain Amir Arjmand, résident en France, dont les proches seraient en lien avec l'OMK et qui, suivant les plans de Paris, est destiné à devenir Mezza al-Khatib iranien. N'est-ce pas largement suffisant pour provoquer une grave crise potentiellement apte à conduire à la rupture des relations franco-iraniennes, ou pire, à une riposte adéquate de Téhéran, à n'en pas douter, et c'est ce que laisse entendre l'avertissement ce 12 octobre téléphonique du ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, à la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. J'ai protesté contre l'ingérence de l'Europe dans les affaires intérieures iraniennes. Si l'Union européenne prend des mesures restrictives, nous aussi, nous prendrons des contre-mesures, a-t-il dit. Ces phrases ne figurent évidemment pas dans le communiqué du Quai d'Orsay, où la dame Colonna affirme n'avoir eu au cours de l'entretien qu'un seul mot à la bouche, libérer nos concitoyens arrêtés arbitrairement. Sans se donner évidemment la peine d'expliquer ce que faisaient ces 5 concitoyens à Téhéran et dans d'autres villes iraniennes par des nuits de troubles à caractère terroriste qui ont suivi le décès de la jeune iranienne Mahsa Amini. Cette obstination n'est-ce pas le signe d'une crainte de Paris de voir les agents de la DGSE révéler de plus amples informations, genre ce qui aurait conduit à l'arrestation il y a 2 jours d'un gros poisson pro-Israël à Kerman, dans le sud de l'Iran? Le mardi 11 octobre, les médias iraniens ont cité le chef du département de la justice de la ville de Kerman qui confirmait la nouvelle de l'arrestation et affirmait que le détenu avait été impliqué dans des activités d'espionnage pour le régime sioniste et avait l'intention de prendre des mesures anti-sécurité et des actes de sabotage dans la province. Le complot a cependant été neutralisé grâce à la vigilance de l'organisation du renseignement du CGRI. Le responsable judiciaire a aussi déclaré que l'homme, dont l'identité n'a pas été divulguée, opérait en Iran depuis un certain temps et sous le couvert d'un homme d'affaires et qu'il s'était rendu dans différents pays dans le but de transférer des informations et de recevoir une formation d'agents israéliens pour des opérations de sabotage. Étonnez-vous bien, sa toute dernière destination avant sa détention était Erbil, la capitale de la région semi-autonome du Kurdistan irakien. Un Erbil où les intérêts du trio Israël-France-États-Unis sont trop convergents pour ne pas voir dans toutes ces affaires l'empreinte d'une œuvre conjointe US-OTAN et Israël à l'effet de contrer l'Iran. Mais le contrer où et pourquoi? Peu d'analystes évoqueraient la question nucléaire dans la mesure où l'Europe, en manque de gaz et de pétrole, espère encore en retrouver auprès du fournisseur iranien. Est-ce en Ukraine où l'entrée en scène des drones iraniens tend à changer le jeu en faveur de la Russie que les atlantistes chercheraient à contrer l'Iran? Probable. Mais quelle mauvaise idée que de vouloir venger dans les villes iraniennes le broyage des Césars sous les coups de gérants d'eux. C'est mauvais comme l'idée, rien qu'à voir ce qu'a duré les agents terroristes de la CIA, de la DGSE et du Mossad ces 15 derniers jours à Erbil, à Soleimaniye et dans les montagnes du Kurdistan irakien, où ils ont été la cible de missiles et de drones iraniens et où ils peuvent être encore ciblés, cette fois par l'armée de terre iranienne. Que fait la France ? Se place en ligne de mire de l'Iran puis de la résistance? Énième conséquence dévastatrice du suivisme pro-US d'un pays. Un temps réputé hostile à l'Empire US est désormais son otage, pays à qui l'Amérique fait payer 4 fois plus cher le pétrole et à qui elle interdit le pétrole iranien, syrien, irakien, voire même le gaz libanais, dans le strict objectif d'y provoquer émeutes et troubles à n'en pas finir.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, dans ce débat, nous allons parler particulièrement des 46 mercenaires arrêtés sur le sol malien à leur arrivée, des mercenaires qui venaient de la Côte d'Ivoire, donc des personnes qui faisaient partie des forces spéciales qui avait pour opération de déstabiliser le pays. Alors, avec la perspicacité du gouvernement malien, ces personnes avaient été arrêtées le 22 juillet dernier, donc sur le sol malien. Alors, l'ironie, c'est que ces personnes-là donc, préfèrent de ne pas quitter donc, ce pays, même s'ils sont arrêtés, car à leur arrivée sur la Côte d'Ivoire, ils seraient exécutés sur le champ à cause de leur échec dans cette opération pour déstabiliser le pays. Beaucoup de responsables, presque tous les responsables africains, évitent d'en parler car c'est un sujet très névralgique. Nous allons voir ça en détail à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Depuis la visite des envoyés spéciaux de la mission de médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, jeudi dernier, aucun chef d'État africain n'a prononcé un seul mot pour demander la libération des 46 mercenaires ivoiriens emprisonnés à Bamako, pas un seul communiqué de l'organisation sous-régionale pour coordonner les violons Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Oumarou Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, se sont précipités à Paris pour rendre compte à leur maître Emmanuel Macron de l'humiliation subie par leur émissaire à Bamako, des nouvelles révélations sur ce dossier mal ficelé et de la nouvelle stratégie pour empêcher tout procès dans cette affaire de complot d'État. Les mensonges ont une durée de vie très courte. À cause des mensonges du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, les envoyés spéciaux de la CEDEAO ont eu la honte de leur vie et le Forum des Nations Unies ou le Haut Sommet de la diplomatie mondiale a été la ruse du monde la semaine dernière. Pour rappel, la CEDEAO avait décidé le 22 septembre à New York, en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, de dépêcher 3 chefs d'État à Bamako pour faire pression sur le colonel Assimi Goïta afin qu'il libère les 46 mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet 2022 avec des armes de guerre. Selon notre source, la diplomatie malienne a clairement démontré que les 46 mercenaires ne sont pas seulement des soldats ivoiriens, mais parmi eux se trouvent 16 soldats ivoiriens des forces spéciales d'ADO. Les autres sont 4 Sierra Leone, 5 Sud-Africains, 4 Guinéens et des Togolais, tous issus de la Légion étrangère française. Les 3 femmes étaient des dames d'honneur qui ne sont pas membres des forces armées, mais qui avaient d'autres rôles et d'autres missions à jouer à Bamako dans le cadre de cette opération pleine tabaski. Raison pour laquelle le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a été clément avec elle, d'où le jargon militaire de titre humanitaire pour masquer l'obligation diplomatique de les libérer. Voilà les raisons du silence radio de la délégation de la CEDEAO qui s'immisce dans une affaire judiciaire entre les 2 pays membres. Face au colonel et à la diplomatie malienne, les présidents guinéens Nana Akufo-Addo et gambien Adama Barrow ont baissé la tête car le rapport d'enquête est explosif. et au moment opportun, le Tamilien rendra public le cas des militaires mixtes, comme aime à le dire l'ancien président Laurent Gbagbo, détenteur de passeport ivoirien pour les besoins de la cause, mais rattrapé grâce à la vigilance des vaillants militaires maliens et mis à la disposition de la justice malienne. Ainsi, face à l'échec de cette opération de déstabilisation commandée par les stratèges géopolitiques du Sahel et mise en œuvre par Alassane Ouattara, le parrain de la France-Afrique, les 46 mercenaires ivoiriens préfèrent être jugés et condamnés au Mali plutôt que de faire rapatrier à Abidjan. Car le président ivoirien Alassane Draman Ouattara refuse de révéler la vérité dans cette affaire, contrairement à ces mercenaires qui ont tout avoué aux enquêteurs, affaire à suivre.
Alors voilà pour le reportage. Chers amis, vous regardez l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau des experts de questions internationales, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude et bonjour à mon collègue africain.
Tout le plaisir est pour nous, M. Luc Michel. Un grand bonjour justement à notre autre invité, expert des questions internationales et journaliste depuis New York. Il s'agit de M. Daouda Emil et Ouedraogo Go. Comment allez-vous, monsieur?
Oui, bonjour. Je vais bien. Bonjour aussi à Luc Michel.
Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. Alors, M. Michel, beaucoup de responsables politiques, même les chefs d'État africains, évitent de parler de cette question, là, qu'il s'agit de l'arrestation de 46 mercenaires qui donc pensaient que c'était de simples voyageurs alors qu'il s'agissait de forces spéciales armés jusqu'aux dents, afin d'avoir une opération de déstabilisation du pays. D'abord, pourquoi les responsables africains évitent de parler de ce sujet?
Écoutez, depuis le début de l'affaire, alors qu'il n'y a pas de doute, puisqu'on a arrêté les mercenaires dans un avion chargé d'armes de guerre et que leurs faux passeports portent des professions qui ne les présentent pas comme des militaires, mais comme des étudiants, des cuisiniers, des maçons, etc. Donc le crime était signé. Mais depuis le début, la CEDEAO, Alassane Ouattara, mais aussi les Nations Unies, multiplient les mensonges. Il faut savoir que la CEDEAO, c'est un espèce de syndicat des chefs d'État pro-occidentaux. On a Alassane Ouattara et le roi du Maroc, qui sont les domestiques de la France-Afrique. Le président du Ghana est lié par un pacte de partenariat stratégique avec les États-Unis et avec la Bundeswehr de Berlin. Et enfin, vous avez dedans, bien entendu, Mohamed Bazoum au Niger, qui lui est un peu un domestique de l'OTAN, des Américains et des Français. Ces gens-là se sont ridiculisés en démultipliant les mensonges, alors que la population de Bamako, la population malienne et les panafricanistes d'Afrique connaissaient tous la vérité dès le premier jour.
Absolument. Monsieur Ouedraogo, vous êtes avec nous depuis New York. Alors, vous avez entendu les propos de Monsieur Luc Michel. Donc, comment se fait-il qu'on envoie donc 46 mercenaires armés jusqu'aux dents, des spécialistes de coups d'État, et donc au Mali, venant de la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le pays? Est-ce que c'est possible, ça?
Alors, je dois dire que l'affaire des 46 militaires ivoiriens a défrayé la chronique. Mais il faut dire que dès le départ, l'affaire a été mal gérée. Pourquoi j'ai dit l'affaire a été mal gérée? Parce que il y a eu une confusion et différentes versions dans le fait que les 46 militaires, bon, ils étaient 49 au départ et les trois femmes ont été libérées, ont été au Mali. Pourquoi j'ai dit que l'affaire a été mal gérée? Parce que, d'abord, la mission de ces 46 militaires, il y a eu une vraie cafouillage, il y a eu un vrai cafouillage dès le départ. Parce que la Côte d'Ivoire avait dit que c'était une mission de soutien à la NSE, qui est une filiale rattachée aux Nations Unies. Et en son temps, les Nations Unies avaient tout de suite dit
que non, ils ne reconnaissent pas ces militaires-là. Alors, après tractation, le représentant des Nations Unies, Antonio Guterres, est revenu encore sur sa parole pour dire que ce sont des soldats de soutien. Alors donc, il y a eu déjà un cafouillage. Alors que, dans ce cas de figure, à un certain degré de l'administration, on ne peut pas tolérer ce genre d'erreur-là. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut aller dans le sens de la compréhension du mercenariat, il faut dire que le Mali est dans son droit de faire toute la lumière sur l'affaire des 46 militaires. Mais là où la communauté internationale et la CEDEAO se fourvoient un peu, c'est de mettre la pression sur Bamako pour qu'il libère ses militaires. Alors que le pouvoir d'Assimi Goïta et l'administration judiciaire dans ce pays disent que l'indépendance de la justice est un fait dans ce pays. Alors, il faut non seulement privilégier la négociation bilatérale, mais aussi savoir que la justice aussi a le pouvoir et le droit, en tant que nation libre, en tant qu'institution libre dans une nation, de pouvoir poursuivre ses activités contre ses 46 militaires. Alors voilà la situation un peu décrite à l'heure actuelle. Et je rappelle que dans cet échange-là, c'est le Togo qui a été choisi comme pays médiateur entre ces deux nations. Et cette négociation et cette médiation se poursuit afin de trouver la meilleure formule, afin de trouver les meilleures articulations entre les deux pays pour pouvoir résoudre cette affaire des 46 militaires. Et il faut signaler que ces 46 militaires, comme votre présentateur l'a dit au départ, ne sont pas tous des militaires ivoiriens. Il y a d'autres nationalités parmi ces 46 militaires-là. Donc, c'est avec l'évolution que toutes ces réalités se posent aujourd'hui à la face du monde. Et il va falloir prendre la mesure de pouvoir traiter cette question de façon responsable et ne pas chercher à mettre la pression sur les autorités maliennes dans le cas de figure où ils sont dans leur plein droit d'agir pour la sécurité de leur pays.
Oui, absolument. Monsieur Luc Michel, bon, c'est vrai que bon, il s'était déplacé pour déstabiliser le pays. Alors, pour une cause humanitaire, les trois femmes mercenaires, enfin les trois femmes qui étaient présentes dans ce groupe, ont été libérées pour justement une cause humanitaire. Et les 46 autres sont très très bien traités. Ils ont allé jusqu'à dire qu'ils étaient donc prêts de ne pas quitter le sol malien, même s'ils étaient donc pardonné donc d'avoir opéré une telle donc opération, car si il s'était rendu rapatrié dans la Côte d'Ivoire, il serait exécuté sur le champ. Que pensez-vous?
Écoutez, on dit en Hongrie, en Europe, il y a un proverbe qui dit que le mensonge suit le menteur comme la queue suit le chien. C'est particulièrement grave pour les Nations Unies, puisque les Nations Unies ont démontré qu'elles étaient complices d'une opération de mercenariat occidental. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisqu'il y a plusieurs affaires dans la Centrafrique voisine de la même nature. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que les Nations Unies ont dit qu'il s'agissait de troupes auxiliaires au service de la butte des Verts qui est déployée au Mali à ce moment-là. Mais même Berlin, qui ne traite pas des histoires pareilles, a refusé d'avaliser les Nations Unies. Les Nations Unies ont d'un côté pris en plein mensonge et évidemment ça a amplifié l'affaire. Que l'on ait de telles méthodes employées par la CEDEAO qui est au service des Occidentaux n'est pas étonnant. Que l'ONU soit prise dans une telle affaire, c'est particulièrement scandaleux. Et ça indique nettement que les gens qui demandent la fin de la MINUSMA, de la MINUSCA en Centrafrique ou de la MONUSCO au Congo, ont parfaitement raison. Ces gens sont des complices de l'impérialisme occidental.
Monsieur Luc Michel, le fait qu'ils soient qui venaient des pays différents, donc de l'Afrique, est-ce que c'était fait exprès pour tromper justement l'opinion publique mondiale et même les Maliens, que ce n'étaient pas des mercenaires alors qu'ils étaient de simples gens en visite au Mali?
Non, puisque les passeports ne les désignaient pas comme des étrangers. Mais en réalité, il semblerait qu'on ait recruté des mercenaires de la Légion étrangère. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le mercenariat en Afrique, ce ne sont plus comme du temps des années 1960-1980, ce ne sont plus des armées, des soldats perdus, des armées occidentales, comme Bob Denard, par exemple. Aujourd'hui, ce sont des bandes d'Africains, Tchadiens et Soudanais, qui se déplacent entre les frontières du Sud-Soudan et les frontières de la Guinée équatoriale. Mais le problème, c'est que la plupart de tous ces gens ne parlent pas français, ce qui est indispensable à faire de ce contre Bamako. Il a donc fallu prendre de parler français.
Absolument.
Ça indique évidemment une façon de prendre les Africains pour des imbéciles. Paris, mais aussi Washington ou Berlin, ils croient encore qu'ils sont dans l'Afrique d'il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'on peut rouler les Africains dans la farine. Aujourd'hui, les Africains, espionnage développé. Ils savent de quoi il s'agit. Et aux côtés du Mali, il y a particulièrement le service de contre-espionnage militaire le plus développé au monde, les Russes du GRU. Le GRU russe a été fondé en 1922. C'est le meilleur service de contre-espionnage du monde. Et par exemple, en 1941-45, il avait enregistré le haut état-major de Hitler, ce qui a fourni un avantage militaire, évidemment, aux soviétiques contre les nazis. Aujourd'hui, évidemment, les Russes du GRU apportent un avantage stratégique à leurs alliés africains.
Donc, M. Luc Michel, vous dites que le gouvernement malien donc, jouit de ce système très avancé russe anti-espionnage?
Oui, tout à fait. Vous savez qu'en plus, il faut savoir que ceux qui sont déployés au Mali, c'est ce qu'on appelle c'est les paramilitaires russes. En fait, les Occidentaux, les Français, les Américains, ils parlent du groupe Wagner. En réalité, il y a 11 firmes paramilitaires russes, dont le groupe Sewa Security, qui est déployé en Centrafrique et au Mali. Mais ces gens particulièrement, ils travaillent main dans la main avec le GRU russe. C'est cela la réalité. Et évidemment, les Occidentaux n'ont pas pris la nature de ce qui se passait en Afrique et de leur isolement.
Absolument. Monsieur Ouedraogo, votre réaction, je vous prie, face aux propos de Monsieur Luc Michel.
Alors, concernant le lieu de la libération des Ivoiriens, je ne sais plus comment les qualifier, puisqu'il y a des Ivoiriens et des non-Ivoiriens. Alors, donc, on va prendre la terminologie des 46 soldats Ivoiriens. Voilà. Alors, concernant le lieu de la libération, il faut savoir que d'ores et déjà, il y a des discussions entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes. Les autorités maliennes veulent que les soldats soient libérés au Mali. Les autorités ivoiriennes veulent que les soldats soient libérés comme les trois soldats avaient été libérés auparavant, c'est-à-dire par Lomé. Donc, c'est ce qui bloque aujourd'hui les discussions entre les deux États pour dire que grâce à la médiation du Togo, les discussions ont beaucoup avancé. Parce qu'il faut comprendre aussi que dans cette affaire, l'Afrique essaie de faire part aussi de sa tradition de dialogue et de compromis entre pays frères. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et l'Occident qui souvent vient s'entremêler, quand je dis l'Occident, je parle de surtout la France, et aussi avec la bénédiction de l'ONU, qui souvent vient s'entremêler dans des débats entre Africains pour dénaturer cette logique de dialogue que nous connaissons en Afrique. En Afrique, les conflits généralement se résolvent sous l'arbre à parabole qu'on avait appelé depuis l'époque des temps anciens le baobab sacré. C'est sur cet arbre à parabole que les discussions se menaient lorsqu'il y avait un conflit entre deux entités. Et cette valeur africaine a toujours pignon sur rue, cette valeur africaine est toujours d'actualité dans nos contrées, même si nous avons été fouettés par la culture occidentale. Donc il faut que souvent les Occidentaux puissent comprendre que nous aussi en Afrique, nous avons nos valeurs culturelles, nous avons nos manières de résoudre nos conflits, nous avons nos manières aussi de mener la marche de nos pays, qui souvent ne souffrent pas de débats, mais que les Occidentaux veulent dénaturer, veulent imposer leur point de vue. Et c'est ce qui crée souvent les conflits. Donc, dans le cadre du maintien, dans le cadre de l'opération des 46, de la libération des 46 militaires ivoiriens, il faut déjà voir cet aspect-là. Cela fait un. Et deuxièmement, il faut aussi comprendre que le Mali veut se mettre au-dessus de la mêlée. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a fait une erreur. Et les Ivoiriens l'ont même reconnu à Lomé, au Togo, qu'ils ont fait une erreur dans le management des 49 soldats qu'ils ont envoyés au Mali. Ça, c'est déjà un pas. Et deuxièmement, l'ONU aussi a fait une erreur. Une erreur d'appréciation, une erreur de compréhension et une erreur de gestion de cette situation qui devait dès le départ être fait sous la transparence, être fait sous l'auspice de la vérité. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, c'est le Mali qui en sort grandi parce que malgré tout ce qu'on dit, c'est les autorités maliennes qui ont pris le pouls de la situation, qui ont accepté de négocier, d'accepter d'entendre le cri du cœur de leurs frères ivoiriens pour que cette question soit résolue de façon bilatérale et qu'on n'écoute pas les pressions des Occidentaux, les pressions de la CEDEAO pour pouvoir accepter de libérer. Absolument. Ces soldats ivoiriens. Absolument. Voilà un peu ce qui en est et voilà un peu mon analyse de la situation.
Oui. Justement, Monsieur Luc Michel, est-ce que vous croyez que cette opération qui avait été déjouée par la perspicacité du gouvernement malien va être la fin de ces opérations de déstabilisation ou il y aura peut-être d'autres opérations?
Je ne pense pas parce que actuellement, aussi bien les Américains que les Français, ils tentent de mener une contre-attaque dans toute l'Afrique et en particulier, il y a des opérations de mercenariat qui sont en préparation, notamment contre la Guinée équatoriale dans la perspective 2023, avec des bandes de mercenaires armés. Il y a un homme qui est l'interface entre le Quai d'Orsay et les groupes de mercenaires, c'est le général centrafricain Bozizé, qui a tenté et raté un coup d'État contre le président élu Touadéra en janvier 2021. C'est donc évidemment les vieilles méthodes qui sont envoyées, mais dans cette affaire, la CEDEAO ou Alassane Ouattara, ils représentent la vieille Afrique néocoloniale, tandis que les colonels de Bamako, avec leurs alliés, ils représentent la nouvelle Afrique dégagée du colonialisme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est devenu le lieu où sont déployées les forces spéciales américaines et françaises. Depuis que Macky Sall au Sénégal s'est rapproché de l'Iran et de la Russie, eh bien, à ce moment-là, et que les colonels de Bamako sont passés du camp des Russes, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue la principale base logistique arrière des Occidentaux. En particulier, la grande base logistique occidentale qui se situe à Dakar a été remise en début de cette année à l'armée sénégalaise. Voilà ce qu'on représente. Les Occidentaux, évidemment, continuent à jouer les vieux scénarios, à employer les vieilles méthodes. Cela ne passe plus en Afrique.
Absolument. Merci, M. Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à M. Daouda Emile Ouedraogo d'avoir été avec nous depuis New York et d'avoir répondu à nos questions. Et bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La RAND Corporation aurait planifié la guerre et la crise en Europe. Dans ce qui semble être une fuite interne exceptionnelle du groupe de réflexion RAND Corporation, connu entre autres pour avoir été à l'origine de la stratégie américaine de politique étrangère et de défense pendant la guerre froide, un compte rendu détaillé donné de la façon dont la crise énergétique en Europe a été prévue par les États-Unis. Le document qui date de janvier 2022 reconnaît que la politique étrangère agressive menée par l'Ukraine avant le conflit pousserait Moscou à devoir mener une action militaire contre le pays. Son objectif réel, affirme-t-il, était de faire pression sur l'Europe pour qu'elle adopte un large éventail de sanctions contre la Russie, sanctions qui avaient déjà été préparées. L'économie de l'Union européenne, déclare-t-il, s'effondrera inévitablement à la suite de cela et ses auteurs se réjouissent du fait qu'entre autres, des ressources allant jusqu'à 9 milliards de dollars retourneront aux États-Unis et des personnes bien éduquées en Europe seront forcées d'émigrer. L'objectif clé décrit le document est de diviser l'Europe, en particulier l'Allemagne et la Russie, et de détruire l'économie européenne en plaçant des idiots utiles à des postes politiques afin d'empêcher l'approvisionnement énergétique russe d'atteindre le continent européen. Le groupe de réflexion de RAND Corporation, qui compte 1850 employés et un budget de 350 millions de dollars, a pour objectif officiel d'améliorer les politiques et la prise de décision par la recherche et l'analyse. Il est principalement lié au département américain de la défense et est tristement célèbre pour avoir été influent dans le développement de stratégies militaires et autres pendant la guerre froide. Un document signé RAND Corporation sous le titre d'ouverture « Affaiblissement de l'Allemagne, renforcement des États-Unis » suggère qu'il existe un besoin urgent d'un afflux de ressources extérieures pour maintenir l'ensemble de l'économie américaine, mais surtout le système bancaire. Seuls les pays européens liés par les engagements de l'Union européenne et de l'OTAN peuvent nous les fournir sans coût militaire et politique important pour nous. Selon RAND Corporation, le principal obstacle à cette ambition est l'indépendance croissante de l'Allemagne. Entre autres choses, il souligne que le Brexit a donné à l'Allemagne une plus grande indépendance et rendu plus difficile pour les États-Unis d'influencer les décisions des gouvernements européens. Un objectif clé qui imprègne cette stratégie cynique est en particulier de détruire la coopération entre l'Allemagne et la Russie, ainsi que la coopération entre l'Allemagne et la France, qui est considérée comme la plus grande menace économique et politique pour les États-Unis. S'il est mis en œuvre, la coopération France-Allemagne-Russie, ce scénario finira par faire de l'Europe non seulement un concurrent économique, mais aussi politique des États-Unis. Les partis verts en Europe sont décrits comme étant particulièrement faciles à manipuler pour faire les courses de l'impérialisme américain. La condition préalable pour que l'Allemagne tombe dans ce piège est le rôle dominant des partis verts et des idéologies européennes. Le mouvement écologiste allemand est un mouvement hautement dogmatique, voire fanatique, ce qui permet assez facilement de les emmener à ignorer les arguments économiques, écrit le rapport citant l'actuelle ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, Annalena Baerbock, et le ministre du Climat Robert Habeck comme exemple de ce type d'homme politique. Les caractéristiques personnelles et le manque de professionnalisme permettent de supposer qu'il leur est impossible de reconnaître leurs propres erreurs à temps. Il suffirait donc à former rapidement une image médiatique de la guerre d'agression de Poutine et à faire des vers d'ardents et tenaces partisans des sanctions. Un parti de la guerre, cela permettra d'imposer les sanctions sans aucun obstacle. Baerbock est entre autres bien connue pour avoir déclaré qu'elle poursuivra la suspension du gaz russe même pendant l'hiver, indépendamment de ce que ses électeurs pensent de la question et des conséquences pour la population allemande. Nous serons aux côtés de l'Ukraine et cela signifie que les sanctions resteront en place même en hiver, même si cela devient vraiment difficile pour les politiciens, a-t-elle déclaré récemment lors d'une conférence à Prague. Les auteurs du document expriment l'espoir que les dégâts entre Berlin et Moscou seront si importants qu'il sera impossible pour les pays de rétablir ultérieurement des relations normales. Une réduction des approvisionnements énergétiques russes, idéalement un arrêt complet de ces approvisionnements, conduirait à des résultats désastreux pour l'industrie allemande. En fin de compte, un effondrement total de l'économie en Europe est considéré à la fois probable et souhaitable. Rand Corporation souligne entre autres que les avantages des entreprises basées aux États-Unis ayant moins de concurrence sur le marché mondial, les avantages logistiques et la sortie de capitaux de l'Europe signifieraient qu'elles pourraient contribuer à l'économie des États-Unis d'environ 7 000 à 9 000 milliards de dollars. Rand Corporation a publié mercredi un communiqué de presse niant que le rapport provienne d'eau. Aucun commentaire n'est fait sur les parties du rapport qui sont fausses ou exactes, à part simplement écrire que le contenu est bizarre et que le document est faux.
Thank you.